Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans mes rêves, les utopistes, les fantaisistes, les idéalistes, les humanistes, les artistes, les anticonformistes, les caricaturistes sont bien plus précieux que les arrivistes, les opportunistes, les attentistes, les défaitistes et les dentistes. Mais ça, c'est dans mes rêves. Dans mes rêves, il y a mon ami Cabu qui me dit « Allez, va, c'est pas grave, on s'en fera d'autres émissions avec des rires, du jazz et des macarons au chocolat. » Mais ça, c'est dans mes rêves. Dans mes rêves, le pouvoir de l'imaginaire, ça existe pour de vrai. Ce n'est pas qu'un vieux slogan. L'imaginaire est notre seule liberté et personne ne peut nous l'enlever. Et ça, c'est pas que dans mes rêves. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui d'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros, la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette dernière rêve partie de la saison et cette dernière rêve partie tout court, je me suis joliment entourée. Trois invités exceptionnellement, trois curieux de l'autre et des autres. Bonjour, bonsoir, Manon Loiseau.
Bonjour, bonsoir.
Journaliste, grand reporter, prix Albert Londres, votre dernier film documentaire, Le cri étouffé, pour faire entendre le cri notamment des femmes syriennes. Il vous plaît mon rêve, hein ?
Il est pas mal.
Il est pas mal ? Mon second est journaliste, il est la Vox Pop sur Arte, encore pendant un petit bout de temps. L'agitateur fondateur de la télé libre, la web télé, qui forme entre autres les jeunes des cités au métier de reporter citoyen. Bonjour, bonsoir, Jean-Paul Lepers.
Laurence Garcia, bonsoir.
Le pouvoir de l'imaginaire, c'est pas qu'un vieux slogan,
hein ? Ah ben, le rêve, c'est le moteur, et c'est le moteur de ma vie d'ailleurs.
Ouais.
Et d'ailleurs, je vais quitter Arte à cause de ça, parce que j'ai envie de repartir dans des rêves.
Voilà des belles nouvelles aventures. Hein. C'est bien les dernières, finalement, parfois aussi.
Bah, je ne sais pas si c'est les dernières, mais en tout cas, ce sont des nouvelles. Ouais, c'est vrai, c'est se dire, tiens, on peut encore imaginer autre chose et rêver autre chose.
Tout est possible. Lui aussi, c'est un rêveur. L'homme caméra à la chemise rouge, bien qu'elle soit noire ce soir. Le squatteur, globe dormeur, globe trotteur. Presque 15 ans que ça dure, notamment avec sa série doc « J'irai dormir chez vous ». C'est sur France 5. Bonjour, bonsoir Antoine de Maximi.
Mais bonsoir.
Vous avez déjà dormi chez les dentistes ?
Oui, j'ai dormi au pied d'un fauteuil de dentiste, au Chili, dans une petite ville qui s'appelle Catemu.
Et pas de cauchemar, genre il va me réveiller avec la fraise et tout ?
Non, j'ai eu peut-être des acouphènes en pensant justement à la fraise.
Ah non, stop. Ah, okay. Bon, vous connaissez dans la vraie vie, croisés les uns et les autres, peut-être même depuis quelques années. C'est bien ce genre d'émission, hein, ça permet de réunir la famille. Dans ma liste de istes, là, idéaliste, utopiste, attentiste, aquaboniste, performiste, mais ça, ça n'existe pas, carriériste, idéaliste, c'est quoi le iste qui vous ressemble le plus, Manon ?
Utopiste et idéaliste ?
Ouais.
Peut-être.
Faut s'y accrocher, hein.
Faut s'y accrocher.
Et d'autant plus quand on est aussi reporter de guerre, enfin en tout cas sur des terrains de conflit, où la noirceur est réelle. On arrive à avoir les petites lumières malgré tout et se dire qu'on reste malgré tout humaniste.
Ouais, je crois que c'est essentiel parce que si on devient cynique, je pense qu'il vaut mieux arrêter. Forcément, enfin, moi ça fait plus de 15 ans, un peu pareil que je voyage, que je vais vers des ailleurs qui ne sont pas toujours doux. Et que forcément, il y a des strates de douleur, tous ces récits de torture, ces conflits, ça reste. Et en même temps, je crois que moi, ce qui m'intéresse à chaque fois dans ces pays-là, ce sont les survies. Et ce sont les survies de gens qui continuent à avoir des rêves, ouais, malgré tout. Ce n'est pas que la guerre, le front, et c'est au contraire même. C'est rester debout et avoir peut-être ces utopies, cet idéal d'une autre vie, et donc ces rêves.
Mais tous les deux, Antoine de Maximi et Jean-Paul Lepers, vous avez été aussi reporter de guerre. Enfin, ça remonte un petit bout de temps, me semble-t-il. Pas anodin, peut-être aussi de prendre d'autres chemins de traverse et de partir dans d'autres aventures, que ce soit la télé libre pour Jean-Paul Lepers ou sur une autre forme d'aventure humaine à la rencontre des autres, quitte à imaginer ce concept incroyable d'aller squatter les bouts de canapé des autres, non ?
Oui, ben moi, ça m'a. C'est une période qui remonte à il y a un moment. Ouais. Hein, j'avais 24 ans. Et effectivement, même la première fois, même j'avais moins 21 ans, je crois, un truc comme ça. En fait, ça m'a vraiment permis de ressentir et de découvrir la nature humaine dans des conditions extrêmes. Et ça m'a beaucoup servi par la suite. Parce que tu pressens mieux un petit peu comment ça peut ou ne pas déraper. Ouais. Parce que parfois ça dérape.
C'est là où d'ailleurs c'est dans la bascule aussi que
souvent,
on se révèle. Quoi. Jeanne-Paul Lepers.
On apprend la prudence, hein, oui. Bien sûr, évaluer une situation, parler avec les gens, regarder le regard, voir si c'est un potentiel ami ou un potentiel ennemi, ça c'est très très important. Donc on est obligé d'aller au fond des regards, au fond de ces moments de ces silences. Et puis c'est aussi profiter effectivement des gens qui sont des gens quand il y a plus la règle, quand il y a plus la famille, quand il y a plus les amis, pour eux hein, ouais. Pour eux, et c'est les combattants, c'est des gens seuls, alors avec leur troupe quelquefois, avec leur groupe, mais c'est des gens qui sont là pour des circonstances exceptionnelles. Mais c'est vrai qu'on est à l'os de l'individu, on est à l'os de l'humanité, et ça c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir voir ça. C'est assez grisant. Moi c'est quelque chose que j'ai trouvé ça passionnant de le vivre, d'avoir la chance de voir ces gens-là et d'être en partage avec eux.
On parle d'utopie concrète aussi dans cette émission-là. Alors il y a Jeanne-Paul Lepers qui a fondé cette télé libre, on en reparlera tout à l'heure.
Qui est une utopie
concrète. Pas si facile, mais bon voilà, pour les jeunes des cités. Il y a Manon Loiseau qui s'est aussi beaucoup engagée, notamment pour l'ouverture d'une école de fillettes syriennes.
Qui s'appelle Le Rêve de Mariam.
Ah, qui s'appelle, voilà.
Crowdfunding, oui.
Rêve réalisé.
Rêve réalisé, d'ailleurs, de manière incroyable, parce que d'ailleurs même que ce film soit comme ça accepté et porté par France Télévisions. Alors, quand on arrive avec les termes Syrie, femme et viol,
qu'on ait
pu faire un film de 70 minutes sans commentaire, entièrement en arabe sous-titré, qui a eu plus d'un million de téléspectateurs et plus de 40 000 euros de dons qui vont permettre à cette école de vivre pendant 2 ans. On avait trouvé les locaux, là maintenant il y avait 15 adolescentes, elles ont entre 12 et 15 ans, qui avaient commencé à étudier. Et maintenant, grâce au fonds, elles sont près de 90. Ouais. Mariam, elle est devenue directrice d'école. Et elle, ça l'aide à se reconstruire et à survivre à ce qu'elle a vécu dans les prisons de Bachar el-Assad.
Ouais.
Donc là, c'était une toute petite lumière dans une immense obscurité dans ce voyage qu'on a fait avec ces femmes qui ont été victimes de viols de guerre. Mais cette petite parcelle de rêve, elle aide à tenir ces femmes, et puis elle nous aide à tenir aussi.
Mais c'est pas anodin, il y a un temps pour tout, pour soi, pour les autres, pour la transmission. Enfin là, je m'adresse à vous deux, là, Jeanne-Paul Lepers et Manon Loiseau. Je sais pas si Antoine de Maximi, vous avez fondé un jour une école
de
globe dormeur. Ça ne s'enseigne pas, je n'ai rien fondé.
Non, j'ai rien fondé. J'ai rien fondé pour une raison très simple, c'est que moi, j'ai une difficulté à prendre des décisions.
Ah bon ?
Et qu'on me propose des tas de choses sans arrêt, d'être parrain de ceci, parrain de cela. Et je ne peux pas vivre parce que il me faut du temps pour réfléchir. Et pourquoi ça ? Et pourquoi pas ça ? Et du coup, j'ai décidé une bonne fois pour toutes que je faisais rien. Voilà.
Antoine, il investit le présent.
Oui.
C'est ça qui est magnifique. Il ne sait pas où il va. Et les gens qui le voient, ils ne savent pas
où
il est, ni où il va. Et donc, on est dans un présent qui est d'ailleurs quelque chose qu'on a dans le journalisme, qu'on trouve dans les moments de guerre, dans les moments de... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est essentiel.
Oui.
On parle toujours du passé ou du futur. Lui, il explore.
Il
explore le présent. Je trouve ça magnifique.
D'ailleurs, vous ne vous dites pas journaliste, Antoine de
Maximi.
Non,
je ne le suis pas, d'ailleurs.
Ouais.
Non, j'ai jamais eu de carte de journaliste. C'est un peu en dehors de pas mal de choses. C'est pas très bien où je suis d'ailleurs.
Je me cherche encore.
C'est dans mes rêves, en fait.
C'est ça qui est bien.
Mais il y a un temps pour tout aussi. Pour revenir à cela, Jeanne-Paul Lepers, où à un moment donné, on se dit bon, bah voilà, il y a le temps de ma carrière, de mon ego, du tout à l'ego, du mercato, éventuellement de la transmission des autres, ce qui n'empêche pas les allers-retours hein, d'ailleurs. Hein, mais il y a un temps pour tout.
Il faut tout faire. Il faut faire ce qu'on a envie. Avec ce qu'on est, on s'améliore.
Ah, vous pensez qu'avec on s'améliore en grandissant?
Ouais, moi je trouve que ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Bah oui, parce que je prends des coups. J'ai compris qu'il fallait plus partager, qu'on peut faire vraiment plus confiance aux autres. J'avais ce défaut, je voulais tout faire tout seul. Et peu à peu, j'ai compris ça. Et en fait, c'est plus agréable. Mais oui, il y a des combats politiques aussi. Et c'est vrai que la télé libre et Reporters citoyens sont des combats politiques d'ouvrir les métiers du journalisme à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une école, de donner la possibilité à des gens de venir travailler ensemble en mixité sociale. Pour avoir des projets ensemble. Aujourd'hui, on est des centaines, en fait, qui sommes passés par la télé libre. Et maintenant, peut-être que ça, ce trésor-là, peut-être que je en parlerai tout à l'heure, on peut en faire autre chose.
Ouais, à suivre. On s'améliore avec le temps? On s'allège?
Je pense qu'on s'allège.
On s'allège.
Je pense qu'on peut s'améliorer.
On peut s'améliorer encore. Il y a la marge.
On sait plus ce dont on ne veut pas, je pense.
Ah, c'est peut-être ça aussi. Hein.
C'est pas mal, en fait, ouais. de se débarrasser de certaines strates. Je pense que c'est ça. Et pareil, je pense qu'il y a aussi, on prend peut-être aussi plus le temps de se dire. Moi, là, je suis plus dans une période où j'ai enchaîné un film sur la dictature biélorusse, après ce film sur le viol comme arme de guerre. Et à un moment donné, j'étais à Minsk et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et ça fait 20 ans que je cours après des pays fermés, des dictatures, des violences. Le temps de la sagesse. Non, c'est que je. Bon, après, j'ai un petit garçon qui a 3 ans, mais j'ai juste envie de faire une pause. Je suis en train d'écrire un livre. Enfin, je suis plus dans cette phase de. Un peu soufflé avant de repartir vers d'autres
combats ou pas
violences. Et
tu veux toujours aller vers les violences.
Il y a un truc, hein, ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais après, c'est plus moi, je recherche beaucoup l'humain là-dedans. Ouais. Comment on se sort de, comment on survit à cette violence en restant, en gardant cette part d'humanité. Ce qui était vertigineux avec ces femmes, c'est qu'elles sont debout malgré tout. Elles ont croisé l'inhumain au-delà même des mots. Et voilà, c'est. Mais j'y retourne toujours, quoi. Il y a quelque chose. I need a shrink. Non, mais peut-être un peu plus de douceur.
Allez, un peu plus de douceur. Un peu plus de douceur, Antoine de Maximi.
Je me pose pas cette question dans ces termes. Je pense qu'effectivement, je reviens sur ce qui se disait juste avant, mais que effectivement, on s'améliore. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, hein, mais nous, comme on a réussi à faire ce qu'on voulait, on s'est amélioré, on est plus, on a de l'expérience, etc. Et effectivement, je pense qu'aussi, il y a une certaine sérénité qui arrive parce que maintenant, on a fait pas mal de choses et du coup, on a moins peur de l'inconnu.
Des rêves de douceur, on va tenter d'en avoir. Il y en aura ce soir jusqu'à minuit, voilà pour notre partition onirique. La rêve partie anti-blues du dimanche soir, c'est la dernière, on en profite, détonnée par le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquet, la réalisation, Nadia Chougui, la préparation, Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir à la technique, notre rêveur Gilles Gaillard. Belle soirée.
C'est un rêveur?
Ouais.
Gentlemen, good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. Have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will Mr. Tillman, for the 7th time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie. They're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb.
C'est Father John Misty sur France Inter et ce soir nous explorons l'imaginaire de nos trois invités, la reporter Manon Loiseau, le journaliste citoyen Jean-Paul Lepers et le globe dormeur Antoine de Maximy.
Renoncer, ne pas renoncer.
Dans tes rêves.
Tu t'en fais trop avec ce qui était et ce qui sera. Hier est l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle le présent.
Laurence Garcia sur France Inter.
Et un joli cadeau du présent ce soir avec nos invités. Comme à chaque fois, on réexplore l'imaginaire de l'enfance qui explique un petit peu qui l'on devient. Alors ce qui est très rigolo, c'est que tous les trois en commun, vous avez des parents, on peut pas dire conventionnel, plutôt artiste, engagé, bohème pour certains. Ceci explique peut-être cela. Mais je crois savoir, vous, Manon Loiseau et Antoine de Maximy, vos parents se connaissaient, non ?
Oui.
Oui.
Dingue.
Oui, oui.
Non,
mais
je ne connaissais pas. Nos parents, dans le côté bohème artiste, se connaissaient.
Ouais, c'est vrai.
Bah, vous, parents 68 tard, hein,
ah,
ce
oui,
fantasque.
Oui. Oui, oui. Peintre tous les deux, artiste peintre tous les deux.
Ouais.
Moi, pareil, 68 tard, une artiste peintre et un écrivain poète. Donc. Et dans la même région.
Ouais.
Et Jean-Paul Lepers.
Pas du tout 68
tard. Pas 68 tard, non.
Ah non, vraiment pas. Non. Non, ils ont fait la guerre.
Oui, quand même, résistance.
La guerre 39-40, et mon père était dans la résistance, et était pilote de bombardier dans la Royal Air Force, où il a rencontré ma mère qui est, elle, anglaise, et qui conduisait des camions dans la Royal Air Force.
Mais du coup, ça crée une pression, là. On se dit, quand on est môme, on est des parents comme ça, un peu, mes parents, c'est héros, on se dit, waouh, il va falloir jouer à la hauteur ou.
Ils disaient pas du tout qu'ils étaient des héros, du tout.
Ils n'en parlaient pas.
Ah non, pas. Non. Non, ils voulaient qu'on se réconcilie avec l'Allemagne. On tous les trois enfants, on a fait allemand première langue. On est allé en Allemagne en voyage scolaire pour se réconcilier, pour justement pas reproduire cette connerie.
Ah ouais.
Ouais, ça marchait.
Ça marchait.
On est devenus européens.
Bah oui, de toute façon, ouais. C'est l'Europe à la maison.
Génial. Ouais, c'est l'Europe à la maison.
Bah Manon Loiseau, votre maman est anglaise aussi.
Oui.
Voilà, il y en a des liens hein, qu'on peut
c'est
tirer,
ça,
tisser, etc. Forcément, la notion de frontière, on se dit que c'est anti-naturel quand les uns et les autres, on a des parents, couples mixtes.
Oui, et puis moi, dès l'enfance, je suis née à Londres, j'ai fait ma maternelle à Londres, je suis revenue pour le CP en France, je suis repartie au lycée français de Londres en CM1, CM2. Enfin, j'étais un peu trimballée entre l'Angleterre et la France. Et j'ai un peu choisi la Russie, du coup.
Oui, c'est ça.
Mais très tôt, je pense qu'effectivement, enfin, déjà, une ouverture. On accueillait souvent des sans-papiers à la maison. Enfin, on avait une espèce de maison où plein de nationalités circulaient, où on était, par définition, curieux de l'autre et curieux de l'ailleurs. Une grand-mère anglaise comédienne, mariée trois fois, dont avec un metteur en scène russe. Ensuite, avec mon grand-père qui a défendu des espions russes, et aussi bien Lady Chatterley. Donc il y a comme ça un engagement et des ailleurs.
Ouais, c'est
donc
ça.
Je pense que, et puis ma sœur chante des ailleurs, donc je crois que il n'y a pas non plus tout à fait de hasard.
Émilie Loiseau et Manon Loiseau qu'on avait déjà réunis dans cette émission-là, d'ailleurs.
Tout à fait. C'était notre premier coming out.
Coming out, familial entre sœurs.
Personne n'avait fait le lien vraiment avant.
Non.
Si, c'était, on a eu plein de jolis retours après.
Incroyable. Hein.
Voilà. Notre sororité
exactement.
A été révélée avec
ah
ici.
Bon
ouais.
Fier. C'était l'auberge espagnole internationale chez les
Maximy. Là, c'était 68 et... Chez mes parents, il y avait sans arrêt du monde, des gens extrêmement variés. Nous, on est 6, 4 gosses, et on n'a pratiquement jamais mangé à 6. Il y avait tout le temps du monde. Et mes parents, qui n'avaient vraiment pas d'argent, en fait, c'est les gens qui apportaient à manger, qui venaient. Et,
donc tous les plats étaient...
Il n'y avait plus de meubles, tout avait été saisi, on était dans un très grand appartement. Non, mais c'est vrai, et les gens s'asseyaient par terre, il y avait des coussins, il y avait des caisses, des trucs comme ça. Et ça discutait, il y avait aussi bien des... je sais plus, il y avait un qui s'appelait Michel Crozon, qui était un scientifique, il y a eu Rufus qui passait, il y a eu des gens comme ça. Et du coup, ça brassait sans arrêt. Et en plus, mon père ramenait des gens aussi, comme un peu chez toi, chez Manon. Il ramenait un mec qui faisait le tour du monde et qui venait passer quelques jours à la maison parce qu'il savait pas où il allait dormir. Il dormait par terre, puisqu'évidemment, on n'avait pas de lit pour lui. Et ça a été un mélange, une grande ouverture avec... Je me souviens aussi du gardien de l'immeuble qui venait aussi discuter de politique. Tout le monde discutait de la vie et de comment il fallait faire, etc. Lui, c'était un ancien commando, comment on les appelle, hein. Oui, un commando.
Légionnaire, non ?
Légionnaire, voilà. Et c'était vraiment, si tu veux, entre un légionnaire et le directeur du Collège de France, si tu veux, il y avait comme un...
J'adore.
Un petit... Et tout le monde discutait ensemble.
Mais on les regarde bizarrement, ces étranges animaux que sont les adultes, en disant, oulala, je serais surtout pas comme ça, ou au contraire, tiens...
Ça nous paraissait normal, nous, c'était comme ça tout le temps, point.
Ouais.
Et tout ça dans un nuage de fumée. Ma mère fermait la porte parce que c'était insupportable.
À l'époque, tout était possible.
Mais tout le monde fumait. Oui, c'était...
Je crois savoir aussi quand même, on parle souvent de l'adolescence comme l'âge de la colère, de la rébellion, de la contestation vis-à-vis du père ou du prof. Vous étiez un ado assez chieur, hein, vous, John Paul Lepers, non ?
Oui, je confirme. Hein, j'avais inventé... Comme ma mère, elle parlait pas bien français, j'inventais des injures.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je disais des mots. Je disais, par exemple, j'avais inventé un gros mot.
Allez-y.
C'est tuerce. Et je disais tuerce à ma mère, et elle disait à mon père, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit un gros mot. What did he say ? Et mon père dit, je comprenais pas, enfin, tuerce. Et en fait, j'avais inventé un mot qui veut dire une énormité. Mais j'étais le seul à le savoir.
Donc on peut pas dire là, il est trop tard, non, même s'il est tard ce soir.
À vous de l'imaginer.
Tuerce, bah.
Tuerce.
Fait chier.
Mais c'était vraiment, ouais. C'était pire que ça, mais je pouvais le dire et ça n'avait aucune. C'est-à-dire que je me maquillais. Donc c'était assez retors quand même.
Ah oui, c'est retors.
C'était très retors, ouais. Donc, mais sinon, j'étais meneur de grève aussi au lycée.
Ça m'étonne pas de vous.
Donc là, j'ai harangué mes copains et mes copines.
Oui, c'est surtout ça.
Et oui, j'ai pu mettre en grève pas mal de lycées, c'était assez agréable.
Ni partisan, ni courtisan, je crois que c'était une de vos devises, donc ça remonte à ces années-là, quoi, le côté. On y va.
Pas du tout dans une organisation politique. J'ai refusé ça. J'ai refusé l'organisation, la LCR et tout ça. Je me méfiais vraiment de ces gens-là qui étaient qui mentaient en fait, qui étaient souvent des menteurs. Enfin, moi, c'est ce que je voyais. Moi, je voulais qu'on se libère.
Libérons-nous.
On était les hippies. C'était cette période-là. Moi, j'avais plein de copains comme ça. On pensait qu'on allait en s'aimant, on allait changer le monde.
Antoine de Maximi, vous étiez déjà dans cet esprit-là ou
Non, moi j'ai toujours été hyper indépendant et partir sur ma route à moi. Donc j'ai même jamais fédéré, rien du tout.
Dégagez de tout.
Non, c'est vrai.
C'est vrai que vous avez un
et
jour...
Et plus ça va, plus je suis jaloux de cette liberté et moins je fais de concessions.
Eh ben oui.
Ouais. T'as besoin de personne.
Non, enfin parfois, mais... C'est bien.
Parfois, j'ai besoin de quelqu'un.
Oui, mais c'est un moment. On revient un peu sur cette histoire de présent. C'est un moment, et puis après, je reprends ma route. Ouais. Non, je suis assez comme ça profondément, en fait.
C'est vrai que vous aviez un jour balancé une annonce pour trouver un boulot. Notamment, à l'époque, vous étiez ingénieur du son à l'attention d'une ONG. Vous avez mis motivation, ingénieur du son, prêt à partir.
Oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que d'ailleurs j'ai fait mes deux premiers films pratiquement, parce qu'ils m'ont demandé de faire le film en fait. Et ouais. J'avais d'ailleurs jamais filmé avec une caméra 16 mm, mais j'ai dit oui. C'est-à-dire que j'ai fait 2-3 essais rapidement pour voir si je pouvais y arriver. Et je suis quand même parti pendant 4 mois en tournant et je n'ai pas vu une image pendant 4 mois. Je tournais en 16 mm avec des petites bobines de 30 mètres. Ah, je sentais que j'allais y arriver.
De chanter.
Ouais.
La jeune Manon Loiseau, pas forcément dans la colère, mais dans l'envie d'aller voir ailleurs si j'y suis.
Un peu comme Antoine, ouais. Je crois que c'était plus ma crise d'ado à moi. Ça a été mon premier voyage en URSS à 13 ans.
Mais quand même.
Ouais. Et un prof complètement fou, je pense, quand j'y repense. On était 12 en quatrième à faire du russe. On parlait 3 mots. En plus, la grammaire est très, très compliquée.
Ouais.
Et il nous emmenait 3 semaines en URSS. C'était la perestroïka. Et donc, moi, j'ai eu très tôt... Alors, je me rappelle d'être arrivée sur la place rouge. On n'avait pas le droit de parler. Pour donner des cadeaux à des jeunesses comme Sommol, il fallait donner des jeans, des bouteilles, des petits échantillons de parfum. Je suis tombée dans le mausolée de Lénine parce que j'étais sûre parce que j'ai loupé une marche. Ado. Donc, je me suis fait expulser du mausolée de Lénine. Première expérience. Ça, c'était ma petite crise. Et après, on est parti 2 semaines en Ouzbékistan. Et on était à Tashkent, Riva, Boukhara, Urganj, enfin, c'était incroyable. J'avais un peu craqué sur un Komsomol, je dois l'avouer aujourd'hui.
Craqué?
Ouais. C'était un peu un premier émoi de fillette de 13 ans. Et quand on est arrivé à l'aéroport pour repartir, je voulais plus repartir. Et j'avais décrété que je voulais vivre en URSS. Et je crois que j'ai pas parlé pendant un mois à mes parents. Et j'ai dit que je voulais vivre en URSS. Eux qui m'avaient fait écouter du Wissotsky, totalement à fond sur, on avait plein de copains dissidents, etc. Et tout. Là, c'était pas tout à fait ce qu'ils avaient projeté. Et puis finalement, je suis partie Et de 13 ans à la fin de mes études à Sciences Po, là, je suis allée quasiment tous les ans. Donc c'est vrai aussi que j'ai vécu cette jeunesse russe qui a rêvé de liberté avec la perestroïka. Il y avait Yeltsin, ce qu'ils appelaient le bardak, donc le bordel, mais qui avait une liberté incroyable, parce que j'ai vécu ces années-là. Ouais. Puis après Poutine, en fait c'était presque un accident dans l'histoire russe et soviétique, mais j'ai eu cette chance-là. Et quand je suis partie à 22 ans là-bas, j'avais dit que je partais un mois et je suis restée 10 ans.
Sympa pour les parents.
Voilà,
hein,
j'ai continué ma crise d'adolescence.
Mais c'est ça. C'est prolongé.
Mais je m'étais un peu choisi mon pays. C'est-à-dire que j'avais, je crois que peut-être le fait d'avoir été trimballée tout le temps entre deux pays, du coup, je m'étais choisi.
Mes racines. Enfin,
l'Union soviétique. Mais après, j'avais effectivement cette grand-mère anglaise qui voulait que je lise Tchekhov dans le texte. Il y a tout cet univers russe, ces espions russes que mon grand-père avait défendus. Enfin, anglais qui travaillent pour l'Union soviétique. Donc, je voulais être comédienne ou espionne.
Voilà. Et finalement.
C'était à 13 ans. Finalement, je suis peut-être des deux.
Bah, je pense peut-être. Eh ben, on vous a pas réunis par hasard, les uns les autres. Waouh!
Je me fais la nique, les mains dans le bouson. Tout mon corps me pique. C'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Tap tap t'appuie au hasard pour la faire jouir. Que faire?
C'est Christina The Queen, c'est Dame Funk sur France Inter, Rêve Parti avec nos trois invités ce soir. Les journalistes Jean-Paul Lepers et Manon Loiseau et le Globe Dormeur, ça vous va quand je vous dis ça Antoine de Maximi?
Moi je dis souvent Globe Squatter.
Oui, ça revient au même en même temps. Hein.
Bah, oui, mais dormir, c'est vraiment quand t'as tout réussi, là. C'est la cerise sur le
gâteau. T'as réussi à squatter, quoi.
Voilà, le marmotte.
En fait, le vrai boulot, il est avant dormir.
Et c'est un boulot, hein.
Ah, c'est du boulot.
Ah, ouais, ça, c'est sûr. On en reparle.
Un boulot tordu, mais...
Un petit peu tordu, quand même.
France Inter. Dans tes rêves.
I have a dream today. I have a dream. One day.
Laurence Garcia.
I have a dream that one day.
Est-ce qu'il y a des phrases comme ça, hein? Est-ce qu'il y a des figures comme ça qui vous donnent la force de vous lever, d'y croire, de vous projeter, de vous dire que tout est possible, des voilà, des guides comme ça.
Je peux pas dire
mais... ça. Ah bah voilà,
non, Maxime. Je peux pas dire ça parce que je suis trop confus.
Ça, j'ai cru comprendre, décidément.
C'est-à-dire que toutes ces phrases, je les ai entendues, mais je les ai un peu oubliées. C'est une espèce de maelstrom, de mélange, de machin qui, effectivement, me pousse à aller de l'avant. Mais de là en choisir une, c'est totalement impossible.
Moi, j'en ai une.
Ah,
oh, pardon.
Ah,
allez.
Non, vas-y,
mais
vas-y.
Manon, ouais, moi, c'est du Shakespeare. Tu vois,
ah, bah oui, mais c'est voilà, ah ouais, voilà, ça serait bien.
Non, c'est I shall be gone and live, or stay and die. Je prendrai la route et resterai en vie, et serai en vie, ou resterai sédentaire, on va dire, et ne vivrai plus. Et mourrai. Voilà. Donc, c'est un peu. Ouais. Je crois que j'ai souvent pensé. À cette phrase, et je pense que c'est un peu ça. J'ai besoin de. D'ailleurs.
Ouais, ouais, mais.
Bouger, le rêve bouger, d'ailleurs, tu souscris.
Bouger.
Dans toute sa confusion,
c'est mieux, en anglais. Hein.
Oui, c'est ça.
Moi, c'est pas John des Paul formules Perth. Comme ça, parce que j'ai pas. Moi, c'est Jean Rouch qui m'a inspiré beaucoup pour. M'a donné envie de prendre une caméra ou un appareil photo, raconter des histoires. Et son film, c'est Au fil du. Non, c'est Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, reste. Et des films de Wim Wenders, au fil du temps, justement. Des road movies, c'est sans doute ces titres aussi de films qui sont des mots qui me parlent et des films qui m'ont donné envie de partir sur la route ou en reportage. Ouais.
On part pour soi ou on part pour les autres? Est-ce qu'on va squatter, on va dormir chez les autres pour soi
pour les autres.
Ou pour les autres?
Ah, franchement, pour les autres, en grande partie. En fait, moi, ce que j'ai toujours aimé faire, c'est aller quelque part, voir ce qui s'y passe et le ramener. Vraiment, c'est la démarche du reporter. Et pour moi, le vivre, ça passe quand même nettement après. Par exemple, je ne pars jamais si je filme pas. Voilà.
Ah oui, quand même.
C'est très clair. Et même quand j'ai fait des expéditions de montagne, je me rappelle, j'ai fait ça au début, j'étais pas du tout montagnard, mais bon, j'ai une bonne santé. Et je plaisante pas, je filmais les mecs, je les doublais, je les refilmais. Et quand je filmais pas, j'essayais même pas d'aller au sommet, ça m'emmerdait. C'est vrai. C'est la motivation, elle est vraiment profondément ça. Et d'ailleurs, je comprends très bien les gens qui aujourd'hui font des blogs. Parce que, en fait, faire un blog, c'est donner un sens, d'une certaine manière, à son voyage, à ses vacances, etc. Et je comprends qu'il y a énormément de gens qui voyagent moins bien s'ils ont pas s'ils construisent pas quelque chose.
Ouais, donc c'est pas reporter, mais c'est rapporteur d'histoire à raconter, à partager.
Je me souviens plus, faut que je prenne le titre.
Oh, mais décidément, à la confusion, waouh, attention, monsieur. Il le fait un peu exprès.
Non, parce que les rêves, c'est ça, en même temps.
Est-ce que t'es tombé amoureux une fois?
Ah.
Dans ma vie?
Non, là, dans tes nuits, là où tu vas dormir chez les autres.
Parce que dans ma vie, je sais pas trop, donc.
Est-ce que dans ces nuits-là, t'es tombé amoureux? Je te demande pas si t'as fait l'amour.
Ah non, dans mes nuits-là, dans ces nuits-là, non, je crois pas être tombé amoureux.
Ah ouais?
Non, ou alors de façon très brève et j'ai oublié aussi sec.
De toute façon, j'allais pas trop dormir chez les femmes, hein.
Plus depuis ces dernières années. Je crois qu'elles se méfient moins de moi maintenant que je suis plus âgé, je crois.
Ah, si, il y a pas mal de scènes de cette.
Il y aurait quelques-unes.
Au réveil avec les femmes qui l'accueillent. Les familles, il y a pas mal de femmes qui t'entourent au réveil.
Dans des familles ou des femmes? Non, il y a deux, trois histoires.
Non, dans les maisons, j'ai l'impression qu'elles sont là pour te.
Un peu.
Du coup, vous m'avez fait complètement perdre le fil de mes questions, mais c'est pas grave. C'est ça qui est bon. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Manon Loiseau. Partir pour soi ou pour les autres,
Moi, je dirais un peu des deux. C'est-à-dire que moi, fondamentalement, c'est la rencontre de l'autre. Et souvent, j'ai plus envie d'y rester que de revenir.
Et rester avec eux?
Oui, de rester avec eux. Parce que j'ai découvert un ailleurs où je sens qu'il me nourrit, où je me sens plus à ma place qu'ici.
Ah oui.
Moi, mon problème, c'est de revenir. Alors moi, maintenant que j'ai un petit bout de chou... Ça, pour le coup, ça change beaucoup, mais j'ai passé presque 20 ans, moi, à... D'ailleurs, je me souviens, quand on était à Kappa, ensemble avec John Paul et Hervé Chabalier, qui dirigeait Kappa, me disait, tiens, mais tu reviens, hein. Tu vas en Afghanistan, mais tu reviens.
Ah, c'est ça.
Et c'est vrai que... Je dis, mais pourquoi il me dit ça? Et en fait, je me connaissais par cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais plus envie de revenir. Mais je crois qu'aussi, quand on va dans ces pays en guerre ou dans des dictatures, il y a un tel don, les gens nous donnent tellement qu'on a besoin de donner de nous. Et donc, c'est tout ce temps suspendu qui, en même temps, fait qu'il y a une authenticité incroyable des rencontres qu'on ne retrouve pas ici.
Vous n'avez pas l'impression de vivre ici
Non, pas du tout.
Ah oui.
Pas du tout. Les gens sont beaucoup plus généreux et en même temps, nous, je crois que nous aussi, on se révèle beaucoup plus. Et on part évidemment pour les autres, pour aussi ce que les autres nous apportent. Et on essaye, nous, un petit peu de transmettre quelque chose de là d'où on vient.
La transmission, c'est le mot-clé aussi pour vous, John Paul Lepers. Le fait de travailler aussi avec des jeunes. On parlait de temps pour soi, pour les autres tout à l'heure. Vous voulez rebondir là sur Manon Loiseau, non?
Oui, j'ai réfléchi. Je veux dire que moi, je pars pour moi parce que j'ai eu envie de partir beaucoup. J'avais envie de découvrir le monde. Et en fait, quand on revient, c'est pour les autres. C'est-à-dire que pour raconter l'histoire qu'on a vue, parce que souvent il y a une forme d'empathie, il y a des choses à dire, on a envie de le faire savoir, et donc c'est vrai qu'on a tellement reçu qu'on a donné aussi, puisqu'on reçoit pas si on donne pas, cette idée là de partage, c'est clair, mais on revient et il faut qu'on raconte l'histoire qu'on a vue, parce que il y a cette urgence là.
Mais c'est aussi porter les voix, qu'on n'entend pas. Effectivement, moi je sais que souvent j'avais envie de rester, je me dis si je rentre pas, ces voix là vont rester
étouffées
un autre. Et du coup, titre... effectivement, je crois que c'est ça. Qui fait aussi que quand on fait des films plus longs, on continue de porter porter ses voix, parce que après le film vit, et donc on est encore dans ces voyages-là et dans cet accompagnement et ces rencontres.
Mais ce qui est drôle, c'est que les uns et les autres, par rapport à tout ce que vous pouvez faire dans ces chemins de traverse, la télé libre pour John Paul Lepers, rencontrer les autres en allant s'inviter chez eux, Manon Loiseau sur des sujets pas forcément évidents, vous avez l'impression que ce sont des niches que vous arrivez à, mine de rien, à explorer, à faire perdurer ou
Enfin, la chance qu'on a, c'est effectivement qu'on a fait ce qu'on voulait, j'ai l'impression.
Ah oui, les trois.
Ce
qui est très, très rare.
Clairement.
Bon, parce que aussi, on a fait chier pour faire.
On a fait très peu de concessions, je pense.
Manon, elle est un peu comme moi, elle fait chier, quoi. Elle est
chieuse.
Il faut aller. Moi, j'ai besoin d'y aller, c'est pas besoin. Et puis, tu veux que je fasse ça, mais non, mais je vais faire comme je le vois. Mais en même temps, on ramène des choses qui ont de la gueule aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on peut le faire. Hein. Mais aussi, on a c'est cette volonté, je pense, qui est quelque chose qui fait qu'on a on est allé au bout de nos rêves.
Vous êtes un chieur, vous ?
Je crois pas que je sois un chieur, moi. Mais par contre, je suis pas très très je lâche pas grand chose sur cette indépendance et même sur même avec les rapports que j'ai avec France 5qui sont bons, mais j'ai quand même réussi à avoir une espèce d'indépendance. Non, sans rire. J'ai une indépendance que je pensais pas avoir un jour et je pensais même pas que quelqu'un l'aurait. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de partir dans un pays et puis finalement changer de pays. Sans spécialement le dire avant. Parce que finalement, oui, mais parce que
je me suis trompée d'avion.
Non, c'est à peu près de ce niveau-là. Parce que ce qui se passe, c'est que cette émission, je reviens à ce que je fais, mais cette émission, J'irai dormir chez vous, repose sur la totale improvisation et ça demande que tu sois à fond convaincu par ce que tu fais.
Ouais.
Et donc, il faut que tu suives tes intuitions. Et si ton intuition te dit, ici, ça marche pas, il faut aller ailleurs, il faut le faire. Et eux, ils voient bien que le résultat, après, au moins, il est cohérent.
C'est ça. Vive les chieurs et vive les intuitifs.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être. Vous n'avez qu'à la demander, je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai ?
Laurence Garcia.
Manon Loiseau, Antoine de Maximi, John Paul Lepers, vous êtes déjà venu dans cette émission-là, on vous aime beaucoup, c'est pour ça qu'on vous a réinvité pour cette dernière. Donc comme vous le savez, pour cette dernière séquence imaginaire, puisqu'il est presque minuit, je vous demande de fermer les yeux. Vous vous souvenez ?
Ah ouais,
vous l'avez déjà fait.
Super.
Vous me répondez les yeux fermés, hein, sans tricher. Je commence par vous, Manon Loiseau, si dans vos rêves les plus fous, vous pouvez recroiser cet ado qui avait la bougeotte, qui rêvait de vivre dans une datcha, épouser un russe, qui est pas très féministe, entre nous soit dit. Mais bon, voilà, vous pouvez la recroiser.
J'ai changé depuis.
Sur les vous lui dites quoi, cet ado avec du recul, là?
Je lui dis qu'elle a eu raison de s'accrocher à ses rêves. Et tout du long, entre effectivement un rêve soviétique russe, un départ là-bas pour quelques mois et un séjour de 10 ans, pas toujours facile, mais tellement enrichissant. Et puis après, ce qu'on vient de dire, c'est, je crois que quand on s'accroche à ses rêves, on arrive aussi à creuser des sillons et à pouvoir avoir une liberté et se sentir bien. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir mener ses rêves et ne jamais écouter ceux qui me disaient qu'il fallait pas les mener.
Et il y en a.
Mais en même temps, voilà, les horizons sont toujours, les ailleurs sont toujours là. Et je pense que quand on a, enfin, tous les trois, sans doute tous les quatre, on partage ça. C'est cette irrépressible envie de rencontre et de raconter les ailleurs. Mmh. Ça finit par convaincre et ça finit par aussi donner un autre espace de liberté et créer d'autres rêves. Et
ça rend plus fort. Voilà. John Paul Lepers, les yeux fermés, vous lâchez votre portable. Pareil, vous pouvez rencontrer cet ado chieur, meneur de grève, qui racontait des histoires hallucinantes à sa mère. Qu'est-ce que vous lui dites avec du recul?
J'ai demandé pardon à ma mère, ça fait un moment, parce que je trouve que j'ai été dur avec elle. Après, c'était une manière de m'extraire d'un monde que je voulais pas. C'était un monde de même mes parents, ils étaient ils étaient pas riches du tout quand ils ont commencé, quand ils sont pas vraiment allés à l'école, mais ils ont gravi les échelons, hein. C'était les 30 glorieuses Et ils voulaient que je devienne comme eux, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'était l'argent qui était le but. Et dans ma famille aussi, c'était ça. Ils ont tous monté. Ils étaient tellement contents de ça, comme toute la France, d'ailleurs, une bonne partie de la France. Je voulais pas de ça. Je voulais trouver moi-même un chemin. Et donc, voilà, moi, j'ai commencé à travailler. J'ai voulu faire marteau-piqueur pour essayer, pour voir ce que c'était, quoi.
Travailler de ses mains.
Ouais. Et puis aller là, voir travailler avec ces gens-là qui étaient obligés de faire ça. Et puis j'ai eu envie d'inventer des choses et j'ai trouvé que la vie était tellement belle que voilà, j'ai continué ça. Ça m'a coûté quelquefois, je me suis fait virer à garder ces formes d'exigence d'utopie. Et j'ai envie on n'a qu'une vie, quoi. Merde,
on n'a qu'une vie. Antoine de Maximy, avant que vous nous endormiez...
J'ai ouvert les yeux un instant parce que je ne voyais pas éteindre le micro. Je m'étais remis en arrière sur ma chaise, j'écoutais
de votre bouche.
Musique, et ça, c'était bien.
Vous, cet ado, alors, fils de 68 heures, bordélique, fantasque, il n'y a même pas de table à la maison.
Je crois qu'il y a un truc qui m'a vraiment porté toute ma vie. Là, j'écoutais un peu ce que disaient mes camarades. C'est l'enthousiasme. J'ai toujours été enthousiaste parce que, en fait, même quand j'allais à l'école, j'étais viré très tôt. Moi, j'ai arrêté à 17 ans parce que j'étais très surpris d'ailleurs qu'ils m'annoncent que je revenais pas l'année prochaine. Oui, je foutais rien, mais d'année en année, je foutais rien et je revenais. Mais là, non. Bon, j'avais passé la date fatidique des 16 ans. Et toujours est-il que cet enthousiasme, je l'ai eu tout le temps. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait des petits boulots. J'ai été balayeur dans une station de ski, mais vraiment balayeur. Je nettoyais les chiottes et tout ça. Mais je faisais ça avec enthousiasme. Je m'amusais. Et ça, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère le garder jusqu'au dernier moment. Et parfois même, je pense au moment où je vais mourir. Et je me dis, je lâcherai pas. Je ne sais pas si j'y arriverai, parce que tu sais pas la maladie que tu vas choper ou des trucs comme ça. Mais je me dis, je lâcherai pas. Et puis, peut-être même que je me dirais, je vais enfin savoir ce qu'il y a derrière.
Ah.
Ça, c'est pas mal.
Mais on ne lâche pas.
Et je ne lâche pas. Non, je suis super enthousiaste sur tout ce que je vais faire.
Ça s'entend. Vous pouvez réouvrir vos yeux, les rallumer, vos yeux. merci beaucoup pour ce voyage croisé. Franchement, j'étais heureuse de vous avoir pour cette dernière.
Oui, c'est déjà fini, quand même.
Ça passe vite. Antoine de Maximy.
Ça continue.
Ouais,
c'est une belle émission.
J'irai dormir chez vous. C'est sur France 5. Et c'est tous les jeudis soirs à 20h50 et à 21h40 avec des inédits, des rediffusions jusqu'au 12 juillet. On a mis toutes les dates sur notre site à nous. La télé libre. Il y a également, bien sûr, le site de cette belle utopie concrète et intéressante et généreuse. Signé Jean-Paul Lepers, en attendant le prochain doc ou le prochain livre de Manon Loiseau.
La Biélorussie, un rêve biélorusse.
Merci beaucoup.
Je peux juste vous remercier, Laurence.
Bien sûr.
Et puis, si on pouvait l'applaudir, parce que
on l'applaudit. On n'est que trois, mais ça va.
Plein de beaux rêves à venir.
Merci.
Vous êtes adorable.
Avec plaisir.
S'est promis pas de larmes, mais des baisers, des gros merci, surtout à toute mon équipe de Super Nana là, qui est derrière. Moi, il y a aussi des garçons, mais surtout beaucoup de filles. Marie-Hélène Fauquet, Nadia Chougui, Muriel Pérez, Céline Hilla, Laure Grand-Besançon et toutes les autres. Franchement, vous êtes chouettes, chic et fidèles. Voilà, c'est la dernière. On n'aurait pas dit non à une cinquième saison. Mais c'est ainsi. Mais avec vous, on se rend compte qu'effectivement, les horizons et les ailleurs sont toujours possibles. Qu'importe.
Nous sommes des rebondisseurs.
Nous rebondirons.
Et je te fais confiance.
Merci. Oyez, osez, rêvez, passez surtout un bel été. Et puis surtout, n'oubliez pas, ce qu'on se répète à chaque fois, osez rêver, l'imaginaire est notre seule liberté. Et personne ne peut nous l'enlever. À bientôt.